Avant de trouver ma place dans l'engagement avec mes différents projets, une question m'obstinait. Comment faire de mon métier un vecteur de transition sociétale? Comment avoir un impact et faire ma part au quotidien? Si vous écoutez Nouvel Oeil, vous vous posez certainement aussi ces questions-là. Et si j'ai choisi la Green Management School pour soutenir mon podcast, c'est parce que ça peut réellement vous aider à vous y retrouver. Se former au métier de la transition écologique, ce n'était pas si accessible il y a quelques années, mais ça l'est aujourd'hui. Ça l'est tellement que l'on ne sait plus qui croire, quelle formation entreprendre, ni ce que ça vaut. Alors j'ai fait les recherches pour vous, et j'ai trouvé l'école que j'aurais tant aimé faire il y a quelques années, quand j'étais paumée. Des cours approfondis sur le climat, la biodiversité, l'agronomie, la géopolitique, mais aussi sur les modèles économiques vertueux. Le tout dispensé par des spécialistes et des personnalités inspirantes. Créer un autre lendemain que celui qui s'annonce, c'est leur mantra. Et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle. Pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Et donc là, j'ai switché, je me suis dit, ok, vas-y, lâche les vannes, juste profite. Et là, c'est devenu absolument incroyable. Et du coup, c'est vraiment une leçon aussi, je pense, que je peux retenir pour la vie au quotidien, de pas essayer de figer, retenir les choses, mais vraiment de les laisser s'envoler, s'emparer un petit peu de tout mon être, quoi. Allez, c'est parti. Salut. J'ai eu du mal à me lancer ce matin, à trouver l'endroit calme pour pouvoir enregistrer et me poser pour enregistrer ces mots. C'était pas prévu, puisque j'avais pas anticipé de publier un troisième récit de voyage avant de partir d'Égypte. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours, avec beaucoup de réflexions, beaucoup de découvertes, et l'envie tout simplement de partager un petit peu ce qui s'est passé, tout comme j'enverrai toujours un vocal à un ou une amie. Et donc là, ce matin, ouais, je me suis fait un peu violente, j'arrive pas trop à trouver l'endroit pour me mettre au calme et pour trouver la motivation, mais en fait, je ressens que j'ai des choses à partager. Et comme disait Fabien Olicard dans un de mes épisodes du podcast, un vaut mieux que zéro. Et donc je me suis dit, bon, enregistre, appuie sur play, tu verras ce qui se passe. Et un vaut mieux que zéro, tu auras toujours des personnes qui seront heureuses et qui pourront se nourrir là de tes dernières réflexions. Donc je me lance. Ces derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses assez fortes. On a rejoint la mer Rouge avec Johan. Donc c'est notre dernier stop en Égypte. On est arrivé à El Kessir. Et on y est resté 3 nuits. C'était très calme. Pour une des rares fois en Égypte, on n'a pas entendu de voiture, en fait. On n'a pas entendu de voiture, on n'a pas entendu de chien, on n'a pas entendu de klaxon, rien. Il y avait juste la mer et le calme tout autour. Donc c'était très paisible. Et il y a une atmosphère particulière qui se dégageait avec le fait qu'il y ait cette étendue d'eau juste en face de nous et tous ces spots de plongée qui sont reconnus mondialement. Moi, j'avais jamais fait de plongée de ma vie et je me suis dit, je peux pas repartir d'Égypte sans avoir fait un baptême de plongée alors que c'est un des plus beaux spots au monde pour faire de la plongée. Et en fait, j'étais partagée parce qu'à la fois, je suis passionnée de l'eau et de tout ce qui peut l'habiter. Mais pour autant, c'est un univers qui est encore assez inconnu pour moi. Donc, j'aime être dans l'eau, j'aime surfer, j'aime nager. Mais je connais très peu finalement les abysses, les fonds marins, toute la biodiversité qui peut y avoir. Et donc c'est vertigineux et ça fait peur quand on connaît pas. La plongée en tant que telle, c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu peur et je me disais mais je crois que je suis pas capable de le faire, d'apprendre à gérer ma respiration, d'être dans un milieu que je ne connais pas du tout en fait et dans lequel je vais devoir m'adapter. Ça me mettait une certaine pression et à la fois c'était un challenge, je savais qu'il fallait que je le fasse Et je crois qu'il y a aussi ce truc de, je sais que si je commence, en fait, je vais tellement aimer que je vais vouloir continuer, et ça va être une passion en plus, et il va falloir après gérer aussi cette passion. En fait, je savais, je crois, au fond de moi, que ça allait profondément me toucher. Et donc, je repoussais de plus en plus le moment où j'allais faire mon premier baptême de plongée. Et pour cause, j'ai été complètement bouleversée par cette expérience, à la fois par toute la vie qu'il peut y avoir dans la mer, qui est un monde à part en fait. Toutes ces couleurs, toute cette émulsion, toute cette paisibilité, tout est en harmonie. Et c'est juste fantastique à voir en fait. Visuellement, déjà c'est quelque chose de très très fort qui prend tous les sens. Et il y a aussi après l'aspect physique en fait. Et le fait de se reconnecter à sa respiration et de ne pas pouvoir penser à autre chose d'autre qu'à sa respiration qu'il faut gérer et à tout cet univers qui est autour de nous et qui nous émerveille. Et c'est vraiment une des rares activités, je crois en tout cas pour moi, qui me permet de complètement couper le mental et de simplement juste fermer les yeux et de me dire « Ok, là, qu'est-ce que tu ressens ? Inspire bien, expire bien. » Et il n'y a que ça, ce bruit de la respiration et l'univers marin qui est tout autour de nous. Et c'est un état méditatif qui est absolument incroyable. Et à la fois le moment en tant que tel était unique et à la fois le retour sur terre aussi était hyper apaisant parce que d'avoir calmé mon mental pendant 48 minutes, on est resté dans l'eau, à être simplement concentré sur ma respiration, ça m'a vraiment calmé en fait et j'ai ressenti un état d'apaisement hyper profond. Et c'est quelque chose que je ressens aussi dans la personnalité de tous les instructeurs qu'il y avait autour de nous. Je trouvais qu'ils avaient un état de présence aux choses et à ce qui les entourait qui était vraiment hyper précis. Et en fait, ils s'éparpillent pas de mille gestes. Ils sont réfléchis avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose. Et chaque geste a son importance, là où on peut avoir tendance à s'éparpiller dans nos quotidiens, en fait. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur cet état d'instant et cette pleine conscience. Et j'ai énormément rattaché la plongée à la pleine conscience. Et donc, ça m'a fait beaucoup écho. Et une autre expérience dans l'eau qui a été autant, si ce n'est plus, émouvante pour moi, ça a été celle d'une sortie en snorkeling, en fait, tout simplement. Et comme les coraux sont absolument incroyables ici en Égypte, à la mer Rouge, une sortie en snorkeling, on peut voir pratiquement autant de poissons qu'en descendant à 10 mètres de profondeur. Et donc, un des instructeurs de plongée m'a proposé qu'on aille faire du snorkeling à 7h du matin, il y a 2 jours, du coup, là, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Et c'était absolument incroyable parce que donc levé du jour, il y a personne encore dans l'eau et on a vu des poissons juste magnifiques. Et je saurais pas décrire en fait cet état de présence qui m'a emportée, mais je suis arrivée dans l'eau en étant assez stressée quand même, alors même que j'avais fait de la plongée la veille, mais je sais pas, d'avoir ce grand bleu sous mes pieds, d'avoir finalement très peu de contrôle sur tout cet environnement, j'ai ressenti quand même un grand vertige d'un coup. Et l'instructeur donc l'a ressenti en fait, il a vu que je commençais à m'agiter alors que lui il était hyper posé, hyper calme, hyper serein. Et il m'a de suite calmé en me disant « mais qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, inspire, respire, ça va aller. » Et en fait il y a vraiment un moment où le mental il switch et où il se dit « ok, de toute façon là je suis dans ce grand bain bleu, soit je m'abandonne à l'expérience et je laisse la peur de côté et je lâche prise et donc je vis un moment merveilleux. » Soit je laisse le stress et ce besoin de contrôle gâcher mon moment. Et donc là, j'ai switché, je me suis dit « Ok, vas-y, lâche les vannes, juste profite. » Et là, c'est devenu absolument incroyable. Et du coup, c'est vraiment une leçon aussi, je pense, que je peux retenir pour la vie au quotidien, de pas essayer de figer, retenir les choses, mais vraiment de les laisser s'envoler, s'emparer un petit peu de tout mon être, quoi. Et donc au cours de cette sortie de snorkeling, à un moment je me retrouve seule parce que j'ai pris confiance et du coup je commence à nager et à partir faire ma vie. Et là j'aperçois au loin, donc c'était très très flou, enfin c'était loin vraiment, donc je savais pas trop ce que je voyais, mais je voyais une ombre, une espèce d'ombre qui était assez grosse, et en tout cas plus grosse qu'un poisson. Je me disais là je crois qu'il y a quelque chose. Et donc naturellement j'avance en fait. J'avance et plus j'avance, plus ça devient net et... Je me dis, mais là, c'est un dauphin. Je crois que c'est un dauphin. Et je regarde à droite, je regarde à gauche. Et en fait, l'instructeur, donc Marwan, n'était pas là. J'avais trop avancé. N'étant pas sûre que ce soit un dauphin, j'ai commencé à un peu stresser, me dire, qu'est-ce que c'est en fait ? Puis il y a aussi cet état d'excitation de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que c'est là, c'est un truc de dingue en face, c'est rare de voir ça. Et le temps qu'il se passe tout ça dans ma tête, Marwan arrive, et donc je pointe du doigt en fait ce que j'avais vu, et qui commençait à partir quand même assez au loin, et donc on le voyait de moins en moins bien. Et donc on se rapproche un petit peu, et là il me regarde, il sort la tête de l'eau et il dit, bah c'est un requin. Et je fais, waouh, oh, finesse. Et naturellement, moi, j'ai envie d'avancer, en fait. D'avancer pour le voir. D'avancer pour juste saisir cette chance, de me dire peut-être que je reverrai pas de requin un long moment, donc j'ai envie de le suivre. Et il m'a dit, non, mais par contre, en snorkeling, c'est dangereux parce que on flotte. Et du coup, voilà, ils peuvent te confondre avec un poisson ou autre, et ça peut être dangereux, plus dangereux qu'en plongée. Donc voilà, on a rebroussé chemin et cette expérience était absolument magnifique, vraiment magnifique. Et je suis sortie de l'eau en étant complètement sur une autre planète. Il était 8h30 et je me suis dit, la journée peut maintenant commencer. Donc c'était assez incroyable et j'ai vraiment envie d'approfondir toute cette connaissance marine et ouais, cette envie d'aller plonger, d'aller découvrir ce qu'il y a en dessous. Voilà, c'est une passion en plus qui s'ajoute à tout ce qui me passionne dans la vie, et je suis certaine qu'à un moment donné, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir, je vais continuer à explorer ces fonds marins parce que c'est juste incroyable. Pour faire le lien avec cette expérience, j'aimerais te parler d'un sujet qui est celui de la transmission sur les réseaux sociaux, qui est toujours pour moi assez délicate parce que ce soit là au cours de cette aventure, mais même dans nos quotidiens, je trouve que c'est très compliqué, en tout cas c'est de l'ordre du génie d'arriver à vraiment transmettre dans la précision ce qu'on peut vivre via les réseaux sociaux et que ce soit ressenti comme si on l'avait presque vécu. Et moi c'est quelque chose avec lequel je suis toujours un petit peu déstabilisée parce que je ressens les choses tellement de façon vive et je vis des choses tellement incroyables que j'arrive jamais vraiment à parfaitement véhiculer ce que je vis. Et à la fois, il y a vraiment des moments où je vis des choses et je me dis « waouh ». En fait, j'ai ce réflexe, malgré moi, de me dire « ça, il faut que je le partage parce que c'est vraiment incroyable ». Et à la fois, je me dis « en fait, ça, j'ai aussi envie de le garder pour moi et de pas forcément devoir le partager ». Et là, je suis vraiment en train de travailler personnellement sur ce truc de « qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je partage pas, comment je le partage ?» Et il y a des moments, en fait, où j'ai juste pas envie de partager, pas envie d'avoir ce réflexe le soir de rentrer et de me dire « ok, là maintenant il faut que je communique sur ce que j'ai vécu parce que vraiment ça vaut la peine d'être transmis », alors même que je sais que ça pourra jamais être perçu et reçu de la façon dont moi je l'ai vécu. Et donc justement pour éviter à tomber dans cette injonction à devoir toujours tout partager sur les réseaux sociaux, je me suis pas mis de cadre particulier de tel jour, telle publication. En fait, je me suis vraiment là au cours des 6 prochains mois et même en général, même quand je ne suis pas pour l'aventure, je ne me mets pas de pression, en fait, de publication. Et je le fais en conscience, quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin de partager des choses. Et je me pose aussi toujours cette question de « ok, là, qu'est-ce que tu publies? Pourquoi tu le publies? Qu'est-ce que tu veux transmettre, en fait ?» Parce qu'il y a beaucoup de publications qu'on peut avoir tendance à faire par ego, j'ai le sentiment. De dire « ouais, j'ai vécu ça, il faut que je montre que je l'ai vécu et ça va me valoriser auprès des autres ». Et en ce moment, je me pose vraiment la question de là, t'as vécu ça, qu'est-ce que tu ajoutes, qu'est-ce que tu apportes aux autres en le publiant? Est-ce que c'est simplement pour les inspirer? Est-ce que c'est pour les pousser à eux réaliser leurs rêves? Est-ce que c'est simplement de leur déco, de « j'ai fait ça et je veux montrer que j'ai fait ça » et je pense qu'il y a un vrai travail aussi tout un chacun à faire là-dessus, de qu'est-ce qu'on publie sur les réseaux sociaux? Est-ce que tout doit nécessairement être publié? Et pourquoi on le publie en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc voilà, une petite transition, une petite parenthèse qui me tenait à cœur de faire. Donc s'il y a parfois voilà plusieurs jours où je publie rien sur les réseaux sociaux, c'est simplement parce que je vis des choses que j'ai envie de garder pour moi, que j'ai besoin d'un temps de digestion et que je veux justement au plus possible me détacher de ce parallèle vie réelle et réseaux sociaux qui doit constamment être retenu. Et donc ça me fait aussi une transition toute faite vers la communication au sens large et tout ce qui peut se cacher derrière Chimla et derrière notre projet de documentaire avec Yoann. Parce qu'il y a effectivement la communication sur les réseaux sociaux qui prend beaucoup de place dans nos quotidiens, de tout ce qu'on vit, se dire qu'est-ce qu'on communique, comment on le communique. Mais il y a aussi tout un tas d'autres choses en fait qui se cachent derrière la réalisation du documentaire. Et j'avais envie de profiter là de ces quelques minutes qu'on a ensemble pour te parler un petit peu de l'envers du décor, qui est assez colossal puisqu'on n'est que tous les deux avec Johan pour réaliser ce projet. Et si là on est parti pour 6 mois, ça fait déjà, enfin avant de partir, ça faisait déjà 1 an qu'on préparait le projet, parce qu'il y a énormément de choses derrière. Une des premières choses qui est, je pense, la plus importante, c'est celle d'avoir un budget. Parce que certes, on n'a pas une équipe de tournage derrière nous, mais on a quand même du matériel qui coûte une certaine somme d'argent, la caméra, là, le micro avec lequel j'enregistre, tous nos disques durs, les casques, les micros, aussi cravates pour les interviews, les filtres pour les caméras, enfin j'en passe. Il y a beaucoup de matériel qui a un certain coût. On a aussi un monteur, donc il va y avoir après toute une étape post-production à notre retour pour le montage du film, l'étalonnage, le mixage du son, etc. Donc il y a tout un aspect technique qui aussi coûte beaucoup. Et puis il y a simplement le voyage en tant que tel, donc les déplacements et tout ce qui peut être rattaché à l'administratif, les visas, etc. Donc au final, ça représente à peu près, je dirais, là pour le moment, on estime entre 75 000 et 80 000 euros pour toute la réalisation du film. Donc à la fois tout le matériel, le tournage et la production jusqu'à sa diffusion. Donc il y a eu une grosse période de démarchage de sponsors pour arriver à avoir les fonds nécessaires pour partir. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont participé à notre campagne de financement participatif qui nous a permis en grande partie de constituer le budget pour cette aventure. Donc il y a à la fois la gestion de ces finances-là, qui nous prend du temps. Il y a aussi toute la communication dont j'ai parlé. Il y a aussi toute la logistique. Donc prévoir nos déplacements. Dans quel pays? Où est-ce qu'on s'arrête? Quel bus? Quel transport? Où est-ce qu'on dort? Alors même qu'on change de lieu tous les 3 jours en moyenne. Donc ça demande vraiment voilà d'anticiper aussi un minimum, même si on se laisse porter par les rencontres, mais d'anticiper un petit peu les trains disponibles, les bus disponibles, les logements, etc. Il y a aussi l'écriture du film et les tournages en tant que tels. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dans quel pays? Qui rencontrer pour mettre ce sujet-là en avant? Et il y a ensuite donc la prise en contact avec la personne, organiser la rencontre, le tournage en tant que tel, etc. Donc il y a vraiment tout ce volet-là de production qui est aussi hyper hyper important. Et puis donc il y a eu tout l'aspect technique à apprendre, puisque c'est nous qui filmons nous-mêmes le documentaire. On a vraiment fait le choix de partir à deux et pas avec une équipe. Premièrement pour des raisons budgétaires, parce que ça coûte très cher d'être suivi par une équipe de tournage. Et deuxièmement, voire même premièrement, parce que c'est tout aussi important pour nous, pour avoir la flexibilité, la liberté de changer les plans et de pouvoir aussi être plus facilement fondu dans la masse et donc invité chez les locaux, parce que nous, ça nous tenait vraiment à cœur au plus possible de vivre localement avec les personnes des pays, dans les pays qu'on traverse, pour s'immerger pleinement dans leur culture et pour avoir des rushs qui soient authentiques, qui soient naturels. Et ça, c'est moins facilement possible avec une équipe de tournage, puisque plus on est nombreux, moins on se fait inviter et moins on peut être un petit peu un caméléon qui se pose partout. Donc on est à deux et on a dû apprendre les bases de la vidéo, quoi filmer, comment le filmer, etc. Donc ça c'est un petit peu voilà le gros noyau de ce qui se cache derrière le projet. Il y a aussi une multitude de petites tâches que je t'épargne, mais c'est vrai que là pendant 6 mois on ne vit vraiment que pour le projet et par le projet, puisque ça accapare toute notre attention au quotidien. Et on peut pas se rattacher à, je dirais, des horaires de travail comme on peut avoir en France. Hier, par exemple, Johan me disait « Mais en fait, je sais même plus quel jour on est, puisqu'on n'a plus cette notion de week-end. » Et on essaie vraiment voilà d'organiser nos journées en fonction de quand est-ce qu'on a de la Wi-Fi et où on a de la Wi-Fi pour pouvoir faire cette partie plus administrative, envoyer des mails, etc. Et les moments où on crée en fait le lien avec les locaux et où donc il faut nécessairement passer du temps, en fait. Donc, typiquement, hier, on était invité chez la famille d'un des taxis qui nous a amené à El Kessir et qui nous a ramené à Safaga. Donc là, on est actuellement à Safaga. Et il nous a invité à déjeuner avec sa famille. Et donc, on a passé tout un moment à cuisiner ensemble, à boire le thé, à parler. Et ça, c'est des moments qu'on veut vraiment vivre et dont on veut s'imprégner. Et pour ça, il faut faire de la place et ça prend bien souvent toutes nos journées, en fait. Donc ça demande aussi une vraie flexibilité de se dire, ok, Je travaille 2-3 heures le matin, après on a toutes nos journées où on s'imprègne de la vie ici locale, et après on retravaille 2-3 heures le soir pour finaliser ce qu'on a à faire. Donc on a un peu 3 journées en une bien souvent, et ça tous les jours de la semaine en fait. On ne distingue plus les semaines des week-ends. Et moi c'est vrai qu'au début j'essayais au plus possible d'être vigilante et de me dire ok on garde nos week-ends etc. Mais en fait c'est juste pas possible. Et donc là, j'ai accepté que pendant ces 6 mois, ma vie serait différente et que chaque journée serait très 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 différente et que une des choses les plus importantes que je pouvais cultiver, c'était justement l'adaptabilité en fait et la flexibilité. Mais voilà, tout ça pour dire que on vit, on dort, on mange Shimla tous les jours et c'est vraiment passionnant. Pour conclure cet épisode, j'aimerais dire un petit mot à l'Égypte, puisque c'est notre dernière matinée en Égypte. Là, dans 4 heures, on devrait partir pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est assez drôle, parce qu'on leur a demandé l'heure de départ du bateau. Ils nous ont dit midi ou 13 heures, ou peut-être 14 heures. Arriver vers 11 heures, comme ça, voilà, c'est l'heure égyptienne. Et en fait, c'est comme ça tout le temps avec les Égyptiens, ils te donnent une heure, mais bon, tu sais jamais trop. Donc faut arriver avant, mais en fait, tu pars après, bref. En fait, je me suis énormément attachée à l'Égypte. Ça fait 3 semaines qu'on est là. Et je suis arrivée avec beaucoup de préjugés et beaucoup d'appréhension parce qu'en fait, on nous a énormément fait peur sur les dangers qu'il pouvait y avoir, encore plus avec le conflit actuel en Israël. Et en fait, moi, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir sortir toute seule dans la rue, je vais tout le temps être un peu sur mes gardes, je vais avoir super peur. Et donc, je suis arrivée avec cette énergie-là. Et j'osais pas sortir, j'avais peur même pour aller faire mes footings, je m'enfermais tout le temps dans des salles de sport parce que j'osais pas aller courir dans les rues. Et plus les jours ont passé, plus j'ai pris confiance et plus j'ai appris à me détacher de ces préjugés qu'on m'avait mis dans la tête et à m'ouvrir pleinement au pays. Et en fait, les Égyptiens mais sont d'une gentillesse et d'un accueil que j'ai rarement reçu ailleurs dans le monde. Et je me sens vraiment comme chez moi ici. Et voilà, ce matin, je suis allée chercher le petit déjeuner, les falafels, toute seule dans la rue. J'ai pas peur du tout, j'ai plus du tout peur. En fait, je me sens vraiment en sécurité ici. Et il y a une vraie question derrière le dépassement des préjugés qu'on peut avoir quand on sort de chez soi. Parce qu'on se fait souvent une montagne, en fait, de ce que peut être un pays, de ce que peut être une situation, parce qu'on a entendu dire que, parce que, donc, oui, il faut prendre ses précautions, oui, il faut être vigilant, il faut être un minimum renseigné. Mais je crois qu'il y a aussi un gros travail de déconstruction, en fait, de tout ce qu'on peut nous inculquer, parce que, bien souvent, on se met des barrières et on se fige et on n'est pas réceptif à ce que peut vraiment être un pays et une culture parce qu'on nous a trop mis des couches de fausses croyances, en fait. Et ça avait été la même chose pour la Chine, où j'avais passé 1 an à Shanghai pour mes études. J'avais une très mauvaise image de ce pays. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit que c'était pas beau, que c'était pas une culture hyper alléchante, que j'allais pas y être bien. Et c'est précisément pour ces raisons que je me suis dit, mais Victoria, c'est trop dommage, parce qu'en fait là, tu dénotes un pays alors que tu y es jamais allé, et tu te bases simplement sur des choses qu'on t'a dit et que t'as vues. Mais la seule manière de vraiment savoir ce qu'est ce pays, c'est d'y aller en fait. Et donc j'y suis allée, et j'ai été complètement séduite par le pays, et idem, au bout d'un an, je me sentais comme chez moi et je voulais plus repartir. Et là, ça fait vraiment la même chose avec l'Égypte, où je suis venue avec beaucoup de peur et je repars avec beaucoup beaucoup d'amour. Et avec pas l'envie de partir, en fait, je me sens vraiment bien ici maintenant. Et on apprend aussi à comprendre les gens, à communiquer avec eux. On est beaucoup moins sur nos gardes, beaucoup plus ouvert à eux. Ouais, je suis assez triste de partir de l'Égypte. J'avoue que c'est un des pays qui m'a vraiment marqué là depuis qu'on est parti. Et je me dis bon, l'Arabie Saoudite, ça va falloir qu'il soit à la hauteur parce que l'Égypte a mis la barre très très haute. Donc voilà, j'avais envie de poser ces quelques mots avant de prendre le bateau pour l'Arabie Saoudite. J'espère que ces quelques mots improvisés auront pu t'inspirer, de quelque façon que ce soit. C'était pas du tout prévu d'enregistrer ça, mais voilà, j'avais quand même matière à te partager quelques réflexions, donc 1 vaut mieux que 0. Je te souhaite Voilà, je viens de casser mon stylo, c'est parfait. N'hésite pas à me faire tes retours sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à me partager de potentiels futurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Il y a plein de nouveaux épisodes de podcast aussi qui arrivent en interview. J'ai planifié des rediffusions, donc tu auras chaque semaine un épisode sur le podcast. Je n'abandonne pas Nouvel Oeil pendant ces 6 mois. Je suis heureuse d'avance à l'idée de reprendre le micro pour te partager le prochain récit d'aventure. D'ici là, je te souhaite de profiter de tout et de savourer la vie comme il se doit. Je te dis à très vite et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.